pas un chalet. Nous en sommes enfin arrivés au sujet qui m'intéresse, c'est la prise du château d'Éguez en 1382 par les Tuchins. Ce château appartenait, je dis ça aux auditeurs qui nous rejoignent, au seigneur Pionce Biourdon, seigneur d'Éguez, qui vivait à Pont-Saint-Esprit. Il était contrôleur de la gamelle, contrôleur fiscal.
Oui, il était receveur général de la gabelle.
De la gabelle. Et lui, quand il est sorti, que ça allait pas trop bien, parce qu'en fait, la gabelle a été abolie par le roi Charles V quand il était sur son lit de mort. Mais après, quelques mois après, les régents ont dit non, on la remet. Mais ça n'a pas été nécessairement bien publié partout, parce que les pauvres crieurs, ils se disaient, on va me crucifier sur place. Et donc ici, les gens se sont dit, non, mais c'est Pionce Biourdon qui veut se mettre de l'argent dans la poche. On n'en veut pas de cette gabelle du sel et on va prendre son château.
Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés, là, pour le coup, on a un événement en plus qu'on peut dater de manière très précise. On sait que c'est le 6 septembre 1382.
D'accord.
Et donc, le 6 septembre 1382, on a à peu près 80 Tuchins.
Oh, ils sont venus à nombreux.
Oui, ils sont
donc
venus relativement nombreux.
C'est quatre compagnies,
donc. Oui, il y a à peu près les quatre compagnies qui sont réunies à ce moment-là, avec leur capitaine, qui arrive devant le château d'Éguez. Et comme le village n'a pas de rempart, en fait, ils peuvent accéder directement à l'entrée du château. Et ils bloquent l'entrée du château. Ce qui fait que, de toute façon, les villageois ne peuvent pas se réfugier dans le château pour aller le défendre. Et même s'ils l'avaient pu, on peut quand même douter très fortement que ces villageois auraient eu envie d'aller risquer leur peau et risquer leur vie pour défendre le château de quelqu'un qu'ils haïssaient probablement. Donc, ce qui explique aussi quand même la facilité avec laquelle ils vont s'en emparer. D'autant plus, alors quand ils arrivent, visiblement, il y a cinq individus à l'intérieur, ce qui n'est pas énorme. Et puis, ces cinq individus ne sont pas des hommes d'armes. Il y a le baille, qui est un agent seigneurial. Il y a deux paysans, alors qu'ils disent après dans le procès que les Tuchins ont menacé d'incendier leur maison, qui n'ont pas du tout offert de résistance. Et visiblement, il y a un clerc aussi qui est là, qui n'a pas offert une résistance acharnée non plus. Et donc finalement, les Tuchins sont rentrés assez facilement, semble-t-il, dans ce château d'Éguez, sans beaucoup de résistance. Visiblement, il n'y a eu ni mort ni blessé quand même dans cette opération-là.
Et ils n'ont pas vraiment détruit de choses.
Et ils n'ont pas détruit le château. Hein. Alors ça, j'insiste dessus parce qu'on dit beaucoup dans la région qu'il y a tout un tas de châteaux qui ont été détruits et incendiés par les Tuchins. En fait, on n'en a que deux qui sont attestés par les sources. C'est le château du Quélard et puis une maison forte à Arpaillargues. C'est à peu près tout. Voilà. Et ils n'avaient aucun intérêt, en fait, à détruire ce château. C'est-à-dire que c'est là où on voit bien la différence entre le Tuchinat et la Jacquerie d'Île-de-France. Les Jacques d'Île-de-France, c'est un mouvement qui est un mouvement antiseigneurial et antinobiliaire. Et donc, ils incendient les châteaux et ils les détruisent, effectivement. Ce n'est pas du tout le cas pour les Tuchins.
Et ils font quoi une fois qu'ils sont dedans?
Alors, une fois qu'ils sont dedans, ils vont mettre la main sur le trésor de Pons Biourdon. En l'occurrence, ce sont d'impressionnantes quantités de blé qui étaient entreposées là. Et ils vont se répartir le blé, selon un principe qui est assez simple finalement, avec une part pour chaque Tuchin qui a pris part à l'attaque et une double part pour les capitaines. Et ce blé, ensuite, il va être transporté par chaque Tuchin chez lui. Donc il est rapatrié dans sa maison.
C'est drôle que le trésor, ça soit du blé.
C'est
étonnant.
Il y a d'impressionnantes quantités de blé qui ont été rassemblées là par Pons Biourdon, qui viennent sans doute pas de ses propres terres. Hein. Ça veut dire très certainement qu'il trafiquait aussi sur le blé.
Donc, une fois qu'il récupère le blé, qu'il ramène chez eux, il libère le château, non ?
Alors, non, il libère pas le château. En fait, on voit une occupation un peu permanente du château. Ça devient même, à un moment, un grand lieu de rassemblement. Puisque en une occasion particulière, on a rassemblé visiblement tous les Tuchins de la région, y compris d'ailleurs des gens qui viennent du Vivarais. Hein, donc on voit bien que l'Ardèche est une frontière administrative, mais pas une frontière réelle. Et on compte jusqu'à 900 Tuchins qui sont présents dans le château, mais pour une période très courte, parce qu'on ne peut pas les nourrir, les loger, etc. Mais à un moment, on a un rassemblement avec 900 Tuchins qui sont décomptés comme ça, un par un. On leur demande de sortir du château et d'aller jusqu'à une fontaine pour qu'on puisse les compter. Donc là, on a un rassemblement tout à fait considérable sur un moment donné.
Et on sait comment réagit le seigneur des Guèzes.
Alors, il a essayé, en fait, d'entamer des négociations assez rapides avec les Tuchins, à la fois pour faire libérer ce clerc, ce bail qui était prisonnier des Tuchins, pour essayer également de récupérer ses papiers. Donc ces archives, notamment visiblement des archives seigneuriales hein, qui se trouvaient à l'intérieur du château. On sait même qu'il leur a fait porter du vin, de la viande, etc.
Et ça a marché ?
Alors ça a marché dans le sens où les prisonniers ont été libérés et où les archives seigneuriales n'ont pas été touchées.
Bon.
Il essaie ensuite de rentrer en négociation pour rentrer en possession de son château. Mais là, c'est le conseil du duc de Berry, qui est le lieutenant général du roi en Languedoc, qui dit non.
Ah bon ?
Qui ne veut pas, en fait, qu'il y ait de négociations particulières avec les Tuchins. Et c'est le conseil du duc de Berry qui va prendre en charge directement la négociation directe avec les Tuchins.
Et ça va donner quoi ?
Alors, c'est un processus qui est très long, très complexe, et en fait, qui ne va pas complètement aboutir, parce que les Tuchins, en fait, demandent des lettres qui sont délivrées directement par le roi, et demande la suppression de la gabelle du sel, ce que le conseil du duc refuse de leur accorder. Et d'ailleurs, le conseil du duc ne peut pas leur accorder, en fait, de ce point de vue-là. Donc, il va y avoir une occupation pendant à peu près 3 mois. Et puis, ce château des Guèzes, il va être, en fait, repris par les hommes d'armes, mais de la même manière qu'en fait, il avait été pris par les Tuchins. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, en fait, il ne reste plus que 2 ou 3 Tuchins qui gardent le château. Et donc, il y a des hommes d'armes qui sont quand même plus nombreux, plus aguerris, qui là reprennent le château, mais sans trop de difficultés non plus, visiblement.
Et ils tuent les Tuchins ou ils leur laissent la vie sauve ?
À mon avis, ils les ont tués, mais on n'en sait rien, en fait.
On n'en sait rien.
Et les autres Tuchins, eux, vont se replier sur d'autres châteaux. Hein. Ils se sont emparés aussi d'autres châteaux dans le Gard, notamment Cornillon, Sabran, Monclus. Voilà, donc on les voit prendre possession d'autres châteaux aussi.
Est-ce que c'est toujours un peu la même chose ? Le seigneur de ce château n'habite pas sur place, le château est à moitié vide, ils le prennent ?
Oui, c'est un peu ce type de phénomène. Et effectivement, se réfugier dans un château, c'est quand même un gage de sécurité aussi pour eux. C'est-à-dire que,
ben oui, voilà, c'est une forteresse. Hein,
exactement. Donc ils sont quand même plus à l'abri dans un château qu'en rase campagne dans leur village.
Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'ils ont pris un autre château, ils ont eu un trésor semblable ?
Les sources ne nous le disent pas. Mais en revanche, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on voit bien qu'ils ne s'en prennent pas aux archives seigneuriales. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait significatif, c'est-à-dire que ça prouve bien que le mouvement n'est pas un mouvement antiseigneurial. Ils n'ont pas brûlé les chartriers, ils n'ont pas brûlé les terriers.
Et s'ils l'avaient fait, ça aurait mis en difficulté ces seigneurs, c'est sûr.
Alors, les chartriers et les terriers, c'est l'enregistrement de la totalité des terres et des droits que doivent payer les paysans.
Oui.
Ah, donc, et on voit bien que les seigneurs tiennent beaucoup à ça. Hein. On voit d'autres négociations à propos de Cornillon, notamment où le seigneur, lui, ce qui l'intéresse, c'est quand même de préserver ses archives seigneuriales.
Alors qu'ils prennent le blé, qu'ils prennent un peu de leur trésor, ça c'est une chose, mais pas les papiers.
Non. Non, non. Et effectivement, on voit bien que les Tuchins ne s'en prennent pas à ces papiers, ce qui d'ailleurs est aussi attesté par le fait qu'un certain nombre de chartriers de ce type-là sont parvenus jusqu'à nous. Hein.
Ben oui,
voilà,
c'est
ils
sûr.
Sont encore là. Donc,
Ils sont quand même un peu sympathiques, ces pauvres Tuchins, mais la révolte, elle a été réprimée finalement en juin 1383, vous m'avez dit.
Oui, alors en fait, ce qui explique aussi d'ailleurs la longue durée de la révolte, c'est que le roi de France, il a quand même d'autres chats à fouetter, et en particulier une grande révolte flamande à ce moment-là.
D'accord.
Donc ses énergies et son potentiel militaire sont surtout mobilisés contre la révolte flamande. La révolte flamande est écrasée en 1383 à la bataille de Rosebecque, et ça libère en fait des forces militaires.
Et donc après, ils viennent finir cette révolte ici.
Exactement.
Bon.
Et ils vont d'ailleurs liquider la révolte des Tuchins en arrivant aussi à dissocier les Tuchins eux-mêmes des élites urbaines. C'est-à-dire que l'une des forces du Tuchinat, c'était cette capacité aussi à naviguer entre la campagne et la ville et à pouvoir aussi se réfugier dans les villes, par exemple à Bagnols-sur-Cèze, à Pont-Saint-Esprit, à Nîmes, etc. Et le pouvoir royal va en fait exercer une pression sur les élites urbaines, les consuls de Nîmes, les syndics de Pont-Saint-Esprit, les procureurs à Bagnols, etc., de manière à ce que ces élites urbaines excluent les Tuchins de l'espace urbain.
Ah, et donc du coup, après, ça devient vraiment compliqué.
Et du coup, ça devient très, très compliqué pour eux et ça facilite évidemment la répression militaire.
tout cas, merci Vincent Chalet. On a découvert toute une page de notre histoire médiévale du coin. Moi, j'étais heureuse de vous recevoir dans notre émission de l'Olivret. Merci de nous avoir expliqué comment ça s'est pris, ce château des Guèzes et cette révolte des Tuchins qui a beaucoup touché toute notre région.
Eh bien, merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.